RMC, face aux grandes gueules.
C'est le visage de la science à la télé. Il s'appelle Mac Lesguy. Vous vous souvenez de Égal M6 sur M6. Le livre est aux éditions du Rocher. Vérité, toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Bonjour.
Bonjour.
Il y a deux émissions scientifiques cultes en France. Les grandes gueules et Égal M6.
Non, c'est exact.
Ah, bien sûr, Charles. Ah ouais. Docteur Consigny.
Vous le dites.
Justement, dans les GG, il y a un instant, on parlait de cette peur vis-à-vis de ce nouveau virus, le hantavirus, qui a malheureusement touché des croisiéristes. Doit-on craindre ce virus? On a bien sûr tous en mémoire le Covid. Est-on parti vers une nouvelle pandémie mondiale, selon vous?
Alors, je ne suis pas virologue, non. Je ne vais pas jouer les virologues d'un jour. Voilà, faut pas péter, comme on dit. Moi, il y a une chose qui me rassure, c'est que on a quand même beaucoup appris avec l'épidémie du Covid, confinement, vaccin qu'on arrive à mettre au point de plus en plus rapidement. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet par cet hantavirus, qui est un virus, bon, ben, on le voit, qui est mortel.
On va tordre avec vous les idées reçues, puisque c'est l'objet de votre livre.
Oui.
Par exemple, on dit « le bio, c'est meilleur pour la santé ».
Non, le bio n'est pas meilleur pour la santé. Toutes les études et les méta-analyses, c'est-à-dire les études d'études faites sur des populations ayant mangé du bio versus des populations mangeant des aliments classiques, montrent qu'il n'y a aucun bénéfice pour la santé à consommer des aliments bio.
Mais c'est meilleur pour la planète.
Il y a quand même moins de pesticides.
Alors, il y a moins de résidus de pesticides dans les aliments bio, mais vous êtes entre 98 et 96% donc d'absence de pesticides en dessous des seuils à partir du moment où ça pourrait commencer à être toxique. Donc ça n'a aucune conséquence pour la santé. C'est-à-dire que les résidus de pesticides en moindre nombre dans le bio n'ont pas plus d'incidence que les résidus de pesticides en très faible nombre dans les aliments conventionnels.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que c'est pas ça qui fait la différence, c'est le mode de vie. En fait, des personnes qui consomment du bio, à côté de ça, ils ont un mode de vie peut-être beaucoup plus sain.
Alors, c'est effectivement ce qui est ressorti d'une étude française. Pas d'une étude anglaise, mais il y a une étude française qui a dit, tiens, on voit que les personnes, dans notre étude que l'on suit, qui consomment du bio, sont en meilleure santé que celles qui n'en consomment pas. Mais ce sont aussi des personnes plus riches, qui ont moins de surpoids, qui fument moins, qui boivent moins, qui font plus de sport, en un mot, qui font plus attention à leur santé, à leur corps. Et c'est ça qui explique la différence, en l'occurrence, c'est sur la fréquence des cancers, c'est ça qui explique la différence de fréquence entre les cancers de cette population versus le reste de la population. Mais quand on fait la somme de toutes les études, parce qu'il y en a eu beaucoup, faites à l'échelle mondiale, une grande méta-analyse est parue l'an dernier, il n'y a, encore une fois, je le dis, aucune différence pour la santé entre une alimentation bio régulière et une alimentation non bio. Et pour répondre à votre question, sur la planète, alors, il faut distinguer le niveau local et le niveau global. Au niveau local, il est clair que dans un champ cultivé en bio, vous avez plus de biodiversité, et ça, toutes les études scientifiques le montrent. Donc, au niveau local, un champ en bio, c'est mieux qu'un champ pas bio. Par contre, si maintenant on élargit le scope, parce que le bio, c'est bon an mal an à peu près 5% de la production agricole. Si on dit, par exemple, si on passait tout le monde, toute la planète en bio. Alors là, ça changerait, parce que le bio, vous le savez, c'est beaucoup moins de rendement à l'hectare. Autrement dit, si on passe tout en bio, il faudra démultiplier les surfaces agricoles. Ça veut dire rogner sur les espaces naturels, sur les forêts, sur les prairies naturelles. Et là, on peut penser que le remède serait... le résultat serait pire que cette solution. Donc, l'impact sur la biodiversité à l'échelle mondiale du bio, ça se discute.
C'est pour ça que j'ai pris cet exemple du bio, parce que votre démarche, elle est intéressante. On entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opinions. Et vous dites, il faut partir des faits scientifiques, en fait, avant de commencer à débattre et à faire part de ces opinions. Il y a une vérité scientifique. Et on l'oublie pas, il n'y a pas plusieurs vérités scientifiques. Il y a une vérité scientifique, elle peut évoluer. Elle peut évoluer, parfois
elle peut
se tromper, etc.
Elle peut évoluer, on peut l'affiner, exactement. Chacun a des opinions, chacun a des croyances. À un moment donné, sur un problème donné, alors la science n'a pas réponse à tout, mais lorsque la science apporte une réponse, qu'elle est validée par plusieurs équipes au niveau national et international, c'est sans doute la meilleure réponse qu'on puisse apporter à tel ou tel problème. Voilà. Autrement dit, pour avoir une opinion, je dis, il faudrait commencer toujours par regarder ce que dit la science sur un point donné, plutôt que de dire, moi j'ai telle opinion. Encore une fois, la science n'a pas réponse à tout, mais pour apporter une bonne réponse, je pense que la démarche scientifique est la meilleure qui existe aujourd'hui.
même si parfois ça va tordre le cou à des idées répandues, notamment sur les réseaux sociaux où chacun fait part de ce qu'il pense de tel ou tel fait.
Bien sûr. Et puis vous avez en France un courant très répandu qu'on appelle le relativisme. La suite à un fameux chercheur en histoire des sciences s'appelait Karl Popper qui disait finalement la science c'est politique, les résultats sont très influencés, etc. Non, faut avoir un moment le courage de dire qu'une opinion qui apparaît sur TikTok ou sur X, voilà, n'a pas le même poids que le résultat de 30 ans de recherche fait par plusieurs équipes internationales sur tel ou tel sujet. Bah, c'est le cas du bio, par exemple, c'est le cas des OGM, c'est le cas de beaucoup de problématiques
liées à l'énergie. Sur le réchauffement climatique, les OGM sont pas dangereux, par exemple.
Alors, il ne faut pas dire les OGM ne sont pas dangereux, il faut dire que les OGM qu'on a mis à présent sur le marché depuis à peu près une quarantaine d'années et qu'on cultive dans le monde entier, voilà, ne pose
pas de conséquences néfastes.
Non, pas de conséquences néfastes, ni pour la santé, ni pour l'environnement. Et c'est toujours interdit. Et c'est toujours interdit chez nous.
Pourquoi on ne revient pas là-dessus, puisque désormais on a le recul, on se dit, on pourrait le faire.
Parce que je pense que cette peur des OGM qui a été instillée il y a 30 ou 40 ans a fini par contaminer toute la classe politique, tout le monde des décideurs, et qu'on mettra sans doute des années, peut-être qu'on sera le dernier pays. Il faut quand même bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les surfaces mondiales cultivées avec des OGM représentent 10 fois la surface agricole française. C'est-à-dire que vous avez des millions d'hectares des USA à la Chine, en passant par l'Inde, l'Argentine et j'en passe, qui sont cultivés avec des OGM. Tout le coton, vous avez des chemises, vous avez des t-shirts, tout le coton que vous portez aujourd'hui, si c'est pas du coton bio, c'est du coton qui est OGM. Pour le plus grand bénéfice des insectes qui aujourd'hui reviennent dans les champs de coton, notamment en Chine, parce que chaque fois que vous mettez des OGM, vous diminuez les pesticides. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez, soit on continue à mettre des pesticides, soit on remplace ça par des OGM. C'est ce que le Nouveau Monde ou l'Asie ont fait depuis très longtemps.
Vous êtes écolo ou pas?
Alors, bien sûr, je suis écolo.
En plus de vos activités pour Monsanto.
Non, alors.
À côté.
Vous êtes quel type d'écologiste alors?
Moi, je suis pour une écologie qui préserve notre planète, notre biodiversité, et voilà, et qui lutte contre le réchauffement climatique. Je donne quelques clés pour bien comprendre déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de climato-scepticisme. Ouais. Hein, on sait, ça c'est, on a deux ennemis, si vous voulez. On a le changement climatique, puis aussi on a les climato-sceptiques qui disent il n'y a pas de changement climatique. Voilà. Donc j'essaie de donner quelques arguments pour permettre de les convaincre. Moi, je suis effectivement pour une écologie basée sur la science. Il faut savoir que l'écologie, avant d'être un courant politique, c'est avant tout une science. C'est la science qui étudie les êtres vivants et les relations dans un milieu donné entre les êtres vivants. Moi, dans mes études d'agronomie, parce que je suis ingénieur agronome, j'ai fait beaucoup d'écologie. L'écologie bien comprise, vous voyez, sur cette question des OGM, c'est de se dire effectivement, soit je prends une culture classique, je la protège des ravageurs, donc des insectes, des moisissures, avec des pesticides, des produits phytosanitaires, soit je passe aux OGM, ça veut dire que je vais diminuer les pesticides, qu'est-ce qui va se passer?
Oui, mais justement, voilà. Pour vous, quand je dis vous êtes écolo, est-ce que les Verts, le parti Les Verts, sont des écologistes comme vous ou pas?
Alors, je ne sais pas si ce sont des écologistes comme moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire de la politique, de donner des bons points
à tel ou tel... les bons arguments
à tel ou tel, à tel ou tel parti.
Nous faire passer à l'écologie ou pas?
D'une manière, ça questionne le rapport du monde politique avec la science. Et avec ce que disent
Beaucoup de scientifiques dans le monde politique.
Alors, il y a
pas beaucoup d'ingénieurs.
Il y en a quelques-uns, il y a pas beaucoup d'ingénieurs, malheureusement. Et d'une manière globale, je pense que aucun parti en France ne se dit on va commencer par voir ce que dit la science sur telle ou telle question avant de définir une politique. Voilà. Ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni aux extrêmes, ni chez les écologistes, ni ailleurs. C'est un peu la science quand ça nous arrange. Pourquoi? Parce que le poids des croyances, des idéologies est bien souvent plus fort que ce que disent les faits scientifiques.
Mais prenons un exemple, puisqu'on parlait du réchauffement climatique, la climatisation.
Oui.
C'est un vrai débat, la climatisation, puisqu'on va vers parfois des étés de plus en plus chauds, donc le réflexe, c'est bien sûr de s'équiper, parce que ça permet... Et d'ailleurs, pendant le Covid, ou pendant les canicules, on dit la clim, c'est bien, mais est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que quand on s'équipe en climatisation, on doit culpabiliser?
Alors non, on ne doit pas du tout culpabiliser. Nous allons, je ne suis encore une fois pas climato-sceptique, nous allons vers des étés de plus en plus chauds, vers des épisodes de canicule. L'INSERM fait les comptes chaque année sur la surmortalité liée aux canicules. Et quand vous discutez avec les chercheurs, en disant, mais ça va s'amplifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils disent, la seule chose à faire, c'est climatiser, à commencer par climatiser les personnes les plus fragiles, climatiser les hôpitaux, climatiser les maisons de retraite, climatiser les EHPAD, et puis climatiser les personnes âgées qui ont envie d'avoir frais et qui pourraient souffrir de la chaleur. Personne ne se pose la question dans ce pays, parce qu'on pourrait très bien dire aussi, mais attendez, il faut vivre avec le froid en hiver, on va arrêter de se chauffer. Personne ne criminalise les gens qui achètent un chauffage pour se chauffer l'hiver. Pourquoi est-ce qu'on va dire donner des leçons en disant se chauffer l'hiver c'est bien, mais se refroidir l'été c'est pas bien. Dans les grands pays développés du monde, le Japon, les États-Unis et d'autres, ce sont des pays qui sont climatisés à plus de 90%. Je ne comprends absolument pas pourquoi il y a ce tabou.
Oui, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie
aussi beaucoup d'énergie pour se chauffer. On a la chance en France, vous le savez, on le sait tous, d'avoir une électricité qui est très peu carbonée. Nous avons l'électricité, pardonnez-moi de le dire, mais c'est écolo parce que ça participe peu au réchauffement climatique. Donc, autrement dit, on a la chance de disposer de cette électricité peu carbonée. Évidemment, utilisons-la pour climatiser et pour protéger les personnes les plus fragiles en été.
Donc, il faudrait même un plan clim plus général.
Un plan clim.
Climatisation, c'est un certain coût.
Si on prenait
et ceux qui peuvent pas se climatiser à le faire, notamment des personnes fragiles,
bien
âgées.
Bien sûr. Je vois encore des projets. D'hôpitaux, d'écoles. Il faut savoir aussi que quand la température commence à monter, la productivité baisse. La productivité dans les usines des ouvriers, dans les bureaux des travailleurs, dans les facs, dans les écoles des écoliers, des étudiants.
La productivité baisse. Trop chaud, oui.
Si on voulait adresser tous ces problèmes, on ferait un grand plan clim, effectivement.
Alors Joël Bruno.
Moi, j'ai vu dans votre livre un chapitre, vous savez, sur les médias et l'absence des fois d'experts. Le problème, c'est qu'on peut avoir une certaine défiance vers la science parce que tout à l'heure, vous expliquez qu'un scientifique qui a fait 30 ans d'études sera toujours plus écoutable et on doit tenir compte de son avis que quelqu'un qui arrive là et qui ne veut dire qu'il va donner son avis sur tout. Et moi, j'ai un contre-exemple, malheureusement. Moi, je vois le professeur Raoult.
Oui.
Quand il est arrivé pour nous parler du Covid, c'est comme son métier, c'était quand même ça. C'était la recherche sur les virus. Il avait 30 ans d'expérience et moi je l'ai cru au début. Je me dis s'il nous dit un truc quand même, lui il est quand même mieux placé de me parler que lui que Édouard Philippe ou un autre qui est pas médecin. Sauf que maintenant avec un peu de recul, on se dit mais il a pas, enfin ce qu'il nous a raconté c'est un peu des cracks. Alors moi je trouve que le problème de la défense vers la science, c'est que ceux qu'on a emmenés à la télé des fois, c'était du spectacle, c'était pas des vrais scientifiques. Parce que les scientifiques, je pense qu'ils ont autre chose à faire que d'aller à la télé aussi.
C'est tout à fait vrai, et c'est pour ça qu'il faut plutôt que les écouter ou voir ce qui passe à la télé, et ensuite il faut les confronter à leur publication.
Oui.
Mais si vous voulez, au niveau, le professeur Raoult défendait, vous le savez, un médicament qui s'appelle l'hydroxychloroquine en disant que c'était un remède miracle contre le Covid. Il faut replacer ça dans son contexte. Le Covid a été une pandémie mondiale, le professeur Raoult et les quelques-uns qui l'ont suivi étaient tout seuls au milieu de milliers de médecins qui tous ont fait des études dans tous les sens, des États-Unis à la Chine, etc. Personne n'a jamais repris. Vous avez toujours quelqu'un qui va parler à contre-courant. Vous avez même.
Et on aime bien finalement. En général,
on aime bien ça. Peut-être qu'en France, tout d'un coup, on se dit tiens, lui, il parle pas comme les autres. C'est sûrement plus intéressant. Vous savez le syndrome du petit David contre le grand Goliath de la science. La science peut se tromper individuellement. Les chercheurs passent leur temps à se tromper en science. Ce qui est bien, c'est que c'est un processus qui est en quelque sorte auto-réparateur. Si vous voulez, ils disent j'ai fait une découverte, les autres disent ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? On va les vérifier, on fait une deuxième étude, une troisième étude, on va l'affirmer. Parfois ça va prendre 6 mois, parfois ça va prendre 1 an, 8 ans, j'ai un exemple très précis. La science française a mis 8 ans à corriger une grave erreur scientifique qui s'était produite 8 ans auparavant. Le temps de la science...
Et laquelle?
C'est la fameuse étude de Monsieur Seralini sur le danger des OGM. Une étude de 2012 qui a été aussitôt rétractée, qui était sur le plan scientifique, qui était vraiment une étude qu'on peut considérer comme frauduleuse. Le gouvernement a commandé 2 études pour cette fois-ci refaire cette étude, mais cette fois-ci avec des bases scientifiques. Elles ont été publiées, si ma mémoire est bonne, en 2017 et en 2018. Voilà. On n'a rien trouvé, évidemment, ça a été définitivement affirmé. Ça a pris 6 ans pour
les OGM.
Éteindre définitivement cette...
Alors, autre question.
J'aime beaucoup les OGM. Si la France adoptait les OGM, ça ferait certainement du bien à notre agriculture.
Charles.
Non, moi, j'ai pas de questions. Je trouve ça très intéressant. Effectivement, ça tord le cou à un certain nombre de lieux communs qu'on a tendance à répandre et que les gens tiennent pour acquis, cette histoire d'attraper froid, vous expliquez que ça n'existe pas.
Attends, pourquoi ça n'existe pas, attraper froid, puisqu'on utilise tous cette expression. J'ai attrapé froid.
Non,
le
froid ne rend pas malade. Ce qui rend malade, ce sont les virus. Ce qui se passe, c'est que quand on fait froid, on a tendance à se confiner dans des milieux où on va tous se serrer les uns contre les autres. Hein. Une école, un hôtel, la ligne 13. Je vois que nous parlons entre connaisseurs. Et c'est là que les virus circulent. Et c'est pour ça que on tombe plus souvent malade l'hiver que l'été.
Vous restez avec nous, Mac Lesguy. Le livre s'appelle Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Il est aux éditions du Rocher. Restez avec les GG, avec les grandes gueules. On aura des questions de Joël Dagosséry, Bruno Poncet, Charles Consigny.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, Joël Dagosséry, Bruno Poncet, l'ami Charles Consigny, et nous sommes avec Mac Lesguy. Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Le livre est aux éditions du Rocher. Je donne la parole à Joël Dagosséry dans 10 secondes, mais sur le ton de la boutade, j'ai dit on vous répondra à la question est-ce que la Terre est plate, mais est-ce que ça vaut le coup de répondre aux complotistes qui fleurissent sur les réseaux sociaux, aux théories les plus farfelues, qui font florès,
Alors, je ne suis pas expert, je sais sur les réseaux sociaux qu'il est toujours difficile de convaincre un complotiste qu'il a tort sur tel ou tel point. Il faut peut-être essayer de rentrer dans son jeu en disant, bon, les conséquences, vous voyez, on parlait des victimes du Covid tout à l'heure, ou des victimes du vaccin, il y a bon, mais donc le vaccin a des effets secondaires terribles, oui, il est mort. Combien? Est-ce qu'il y a une étude? Est-ce que ce qu'on appelle les anti-vax ont été capables de chiffrer le nombre de morts? Et non, en général, la conversation s'arrête très très vite. Oui.
Néanmoins, les anti-vax sont plus nombreux aujourd'hui qu'avant la période du Covid, ce qui paraît complètement paradoxal, puisque c'est quand même le vaccin qui, grâce au vaccin, parce qu'il y en a eu plusieurs, ça nous a permis de revivre. Comment vous l'expliquez ça? Et qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants alors que les vaccins sont obligatoires.
Mais regardez, notamment aux États-Unis, la rougeole était une maladie qui était quasi éradiquée dans les années 2000. Aujourd'hui, on revient à 400, à des plusieurs milliers de cas de rougeole. Il y a déjà quelques victimes. Alors, Dieu merci, la létalité de la rougeole est très faible, mais vous avez déjà 3, 4, 5, 6 morts de rougeole. Ce qui paraît une aberration, alors que c'est une maladie que vous connaissez tous, le vaccin ROR qu'on donne à nos enfants, qui était autrefois, il y a 20 ans, considéré comme éradiqué. Mais le pire de ça, c'est que je lisais un article dans la presse américaine, c'est que quand vous interrogez les parents qui ont perdu cet enfant non vacciné, mort de la rougeole, ils vous expliquent que c'est pas du tout parce qu'ils l'ont pas vacciné. Voilà, c'est-à-dire qu'ils restent persuadés que cette mort est due à d'autres causes. Ce qui montre bien que quand le complotisme est enraciné, il est très
parce
enraciné.
Parce que le vaccin, c'est Big Pharma, et Big Pharma veut nous tuer, entre guillemets,
pognon avec les morts.
En nous injectant des produits qui sont mauvais pour notre santé. Alors, c'est bien aussi d'un peu paradoxal, puisque
c'est un peu paradoxal, parce qu'une entreprise qui cherche à tuer ses clients, a priori, c'est pas très viable longtemps.
Joël Dagosséry.
Alors moi, j'ai adoré votre livre, parce que j'aime bien les petits livres croquignolesques comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs à grignoter, il y a toujours un conseil, des choses qui sont de vue quotidien ou des choses plus scientifiques sur le bio, les OGM, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment adoré pour les gens qui ont besoin de conseils, enfin qui y courent, parce que c'est super. Notamment sur le sommeil, parce que vous savez, moi je cherche depuis, on va dire 2-3 ans, à optimiser mon corps. Donc j'essaye d'apprendre des choses sur... Je cherche à apprendre comment on fonctionne, voilà. Et le sommeil, par exemple, moi qui suis un peu comme beaucoup de femmes, hein, sur le poids, etc. Donc il y a 2 ans, j'ai compris que le sommeil favorisait la perte de poids. Oui. Et donc voilà, on retrouve ce type de conseils dans votre livre. Mais ma question, elle est un peu plus globale. Alors, comment vous jugez la place du scientifique dans la société française, notamment à la télé? Je vous dis ça parce que moi, j'ai grandi avec E égale M6, bien sûr, mais aussi C'est pas sorcier, mais aussi La vie, vous voyez, il y avait un dessin animé qui s'appelait La vie, où on pouvait rentrer à l'intérieur du corps, oui. Exactement.
Et le jour du Seigneur aussi, tu me disais.
Aussi, effectivement.
Ça, c'est pour soigner ton âme.
Et oui. J'observe quand même qu'il y a une disparition de ce type de programme à la télé. On a en même temps un affaiblissement du niveau en mathématiques, en sciences à l'école. Et donc je me dis que les enfants actuellement n'ont même pas quelque chose sur leurs écrans auxquels se raccrocher, qui pourraient même leur donner envie, par exemple, d'augmenter leur recherche en mathématiques, leur travail, etc. Nous, on avait tout ça, on se disait, tiens, ah, c'est génial ce qu'il a dit là, McLesguy, ou c'est génial ce
ça
que j'ai vu.
Ça peut faire naître des vocations.
Exactement. Donc, comment vous observez ça? Enfin, comment vous jugez ça et à quoi c'est dû, selon vous?
Alors, à quoi c'est dû? Bah, c'est un phénomène qui est multifactoriel. Merci d'abord de noter qu'effectivement, bah, M6 tient le cap avec toujours une émission à une heure de grande écoute. Et mon credo depuis 35 ans, c'est de plaire au grand public sans déplaire aux scientifiques. C'est-à-dire que sur des thèmes très quotidiens, on essaie d'apporter les meilleures réponses scientifiques possibles avec le concours de tous les physiciens, chimistes, biologistes qui interviennent chaque dimanche soir dans l'émission. Donc ça, c'est un point important. Et c'est vrai qu'à une époque où il y avait plus d'émissions scientifiques à la télévision qu'aujourd'hui, ben moi j'ai toujours conseillé d'une manière globale que en dehors d'M6 pour lequel j'ai une grande fidélité et qui a une grande fidélité pour moi et je les en remercie, la science a jamais beaucoup excité les patrons de chaîne.
Bah, ça devrait quand même être une mission du service public de l'audiovisuel, par exemple.
Ça pourrait être une mission du service public de l'audiovisuel. C'est un autre sujet sur lequel je ne m'aventurerai pas. Mais d'une manière globale, on voit aussi que la presse scientifique est en diminution. Vous avez raison, les études scientifiques également séduisent moins aujourd'hui.
Moi, j'étais abonné à Science et Vie, par exemple.
Les jeunes
pas jeune.
T'étais pas abonné qu'à ça, nous a dit. Mais bon, je dirais rien pour les autres.
Je ne savais pas. Mais sur Science et Vie, j'avais le droit.
Science et Vie, qui était un excès, voilà.
Mais bien sûr,
vie, excellent journal. La recherche pour la science. Ouais, à un moment, j'ai tous sur mon bureau. Vous voyez, j'ai tous dévoré. Bah, ça vient du fait que, oui, en France, de manière assez préoccupante, l'esprit scientifique a moins droit de citer qu'autrefois. Quand j'ai commencé en 1991, Égal M6. Il y avait dans tous les journaux de grosses rubriques sciences qui ont quasiment toutes disparu ou se sont petit à petit effondrées. Et c'est dommage parce que d'autres pays prennent le relais. On parlait du Covid il y a un instant, c'est quand même assez symptomatique de se dire que la France, pays de Pasteur, n'a pas réussi à mettre au point de vaccin contre le Covid. Quand on regarde, c'est né de collaborations germano-anglo-américaines essentiellement, plus quelques autres pays que j'oublie. Et nous, on n'a pas été capable de sortir le vaccin. Ça en dit long, effectivement, sur l'état de l'innovation et de la recherche en France.
Il y a eu un appel d'un grand patron, le patron de Thalès, qui regrette qu'on ait plus d'ingénieurs.
On
les forme pas assez. On court à la catastrophe. Ça sera une catastrophe pour notre pays. Il a raison.
Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que quand on forme un ingénieur en France, on en forme 100 ou 1000 en Chine. Il faut se dire que la science, quoi qu'il arrive,
elle a raté plein de virages du coup
elle avance
de ces dernières années.
Et on rate plein de virages. Alors, vous voyez, heureusement, on prend l'IA. On a des bons codeurs avec Mistral. On est en train, semble-t-il, de prendre un petit peu, voilà, d'accompagner cette révolution de l'intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup de révolutions qu'on rate en médecine. C'est assez drôle. On parle de complotisme. L'autre jour, on a annoncé quand même une équipe américaine. Ils sont en train de mettre au point un vaccin ARN messager. Contre le cancer du pancréas, qui est aujourd'hui le cancer le plus létal qui existe. Et l'idée, quand même, c'est donc d'introduire de l'ARN messager dans notre corps, qui va permettre à nos lymphocytes, nos globules blancs, d'aller tuer les cellules cancéreuses dans le pancréas. Les premiers résultats, sur des échantillons tout petits, sont spectaculaires. Spectaculaires. C'est une promesse formidable pour ce cancer qui, je rappelle, est un des plus mortels au monde. Eh bien, à peine avais-je relayé sur X cette nouvelle que tout le monde m'a dit « Ah, vous croyez qu'on va se mettre un vaccin ARNm dans le corps, etc. Vous qui avez déjà participé à l'assassinat de millions de personnes avec vos vaccins ARNm. » Ça en dit long. Tout le monde devrait se réjouir. Mais en tout cas, c'est pas une recherche française, c'est une recherche américaine. Regardez nos derniers prix Nobel français. Ils se sont tous exilés un moment pour poursuivre leur recherche ailleurs. CRISPR-Casper, notre grande généticienne, Emmanuel Charpentier, voilà, elle est à l'Institut Max Planck à Berlin, depuis des années, et elle le dit sans détour, je n'aurais pas pu faire en France la carrière que j'ai faite à l'étranger.
Charles.
Alors, c'est terrible ce que vous racontez, mais bon, il faudra faire quelque chose pour ça. Non, un autre sujet qui m'a intéressé, moi, dans le livre, c'est cette histoire des cures et des produits détox. Parce que on sent bien que c'est un fantasme de beaucoup de gens de se dire que parce que ils vont prendre une espèce de tisane détox, ils vont se nettoyer d'une gueule de bois, d'une consommation d'alcool excessive. Et en fait, vous dites, en gros, ça sert pas à grand-chose.
Alors ça, c'est typiquement une question à laquelle la science peut apporter une réponse. Hein, vous prenez un échantillon de personnes volontaires, vous leur donnez des produits détox et vous mesurez sur les paramètres de leur corps ce qui se passe. Voilà. Et la réponse, elle est simple, il ne se passe rien. Il n'y a absolument aucun aliment détox à part un. Enfin, il est assez basique, je pense que je ne l'apprends à personne, mais je le dis quand même, pour aider notre corps à bien tourner, pour aider nos organes, et effectivement, vous avez raison, les reins, le foie, à faire du travail, mais il faut boire de l'eau. Et pas la peine d'aller chercher de l'eau minérale, telle ou telle eau minérale, ou en bouteille, etc. N'importe quelle eau, à commencer par celle du robinet, vous fera exactement le même effet.
C'est la grande illusion, la détox.
Oui, c'est la grande illusion. Ça part d'un principe, je pense, que notre cerveau adore être trompé, il adore les belles histoires. Et quand on lui rend une histoire avec un truc qui est un peu plus cher, mais qui a une petite promesse derrière, il se dit, ah bah forcément, si c'est vendre le plus cher avec une belle promesse derrière, c'est que ça doit me faire du bien. Bah non, en fait, ça ne fait
rien. Vous avez raison, parce qu'en fait, moi, j'ai du mal maintenant à faire la différence entre ce qui est vraiment scientifique et ce qui est la mode. Donc, par exemple, sur la détox, on a tous cette mode du matcha avec les filles qui sont avec leur matcha, ça fait, voilà, c'est très détox, c'est vert, c'est sain, etc. Et puis, vous avez maintenant les protéines. Alors, les protéines, c'est vraiment le grand truc en ce moment. Ça avait commencé avec, je crois, le régime Doucan, je crois, où il nous disait qu'il fallait manger que de la protéine, etc. Et maintenant, vous en retrouvez partout. Parce que, c'est vrai que les études montrent qu'on est un peu, on mange peut-être pas assez de protéines, notamment quand on vieillit, ça aide à l'entretien du muscle, etc. Mais là, je viens de voir des céréales, donc c'est des céréales Lyon, pour pas donner la marque, mais c'est des céréales qui sont quand même bourrées de sucre, voilà, qui sont maintenant protéinées. Donc en fait, on transforme tous les aliments classiques en protéines, en apport de protéines.
Alors vous avez raison. Alors faut se méfier. Il y a encore des généralisations. Il y a un constat qui est vrai, c'est que au-delà de 50 ans, on estime qu'à peu près un Français sur deux est en déficit de protéines. Et vous savez, quand on vieillit, moi quand j'ai appris ça, j'étais le premier à me dire je vais manger moins de viande, moins de protéines, manger plus de soupe, de légumes. Ce qu'il me faut, c'est des fibres, etc. Et puis j'ai fait le compte, parce que à 50 ans, globalement, il nous faut 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel. Bon, alors moi, ça fait 80 g de protéines. Moi, je peux vous dire que 80 g de protéines, par exemple, c'est 12 œufs. Je suis loin de manger l'équivalent de 12 œufs par jour. Donc pour le coup, j'ai recommencé à manger des protéines dans mon alimentation, et ça, c'est un résultat tangible. Maintenant, vous me citez le cas de ces céréales protéinées, donc plutôt destinées à des enfants, oui, comme une alimentation normalement qui est bien protéinée. Mmh. Oui, ça me semble bizarre. Mais à la base, c'est vrai qu'il y a eu un constat, c'est qu'à un moment, les Français ne mangeaient. Les Français de plus de 50 ans ne mangeaient pas assez de protéines, c'est tout à fait.
Vous rendez hommage, au début de votre livre, à vos professeurs, en disant, c'est grâce à eux, finalement, que je me suis passionné pour la science et je suis devenu qui je suis. Est-ce qu'aujourd'hui, nos professeurs à l'école peuvent encore faire naître des vocations scientifiques?
Alors, je pense qu'il y a toujours... Alors, d'abord, je vais doubler cet hommage, puisque vous m'en offrez l'occasion. J'étais au lycée de Biarritz et j'ai eu d'excellents professeurs, qui étaient des vieux professeurs en fin de carrière, voilà, des physiciens, des mathématiciens, un biologiste extraordinaire. Ils m'ont vraiment donné le goût de la science. Et surtout, ils nous ont donné un excellent niveau. Alors, je pense qu'il y a aujourd'hui toujours de bons professeurs. Voilà, les professeurs, c'est comme les garagistes, les cheminots ou les journalistes scientifiques. Hein. Il y en a des bons et il y en a des moins bons. On va taper sur personne. D'une manière globale, je le vois très bien parce que j'ai encore des beaux enfants qui sont au collège. Le niveau a baissé. Et c'est pas que la faute des profs, c'est un phénomène un qui est mondial, oui. Là, deux qui est sociétal. Il y a la concurrence des écrans, il y a le fait qu'on veut pas stigmatiser, etc., etc. Et le niveau a baissé. Je pense que les professeurs, ce qu'ils font avant tout, c'est qu'ils suivent un programme. Si vous redonnez un programme plus ambitieux ou plus resserré sur des matières scientifiques, c'est pas la faute des professeurs si à un moment quelqu'un dans un ministère a décrété que les maths au lycée seraient une option comme les autres.
C'était Monsieur Jean-Michel Blanquer. Corrigé depuis.
Voilà. Dieu merci, ça a été corrigé parce qu'on a vu qu'aussitôt le niveau s'effondrait. Donc oui, il y a des bons professeurs. Encore faut-il leur donner des bons programmes, voilà, et leur dire soyez ambitieux pour vos élèves.
Merci Mac Lesguy d'être passé par les GG. Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. C'est aux éditions du Rocher. On vous conseille ce petit bouquin. C'est un plaisir de le lire. Joël, ça l'a mise en joie de retrouver l'idole, Mac Lesguy aussi.
Merci
Mac Lesguy.